Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis de nouveau face à Claude Jopard. Nous étions en train de plonger au centre de la Terre, un peu mieux que Jules Verne presque, puisqu'on est descendu à quelques milliers de kilomètres. Et en dessous du manteau, il y a...
Le noyau.
Le noyau. Alors qu'est-ce que c'est que ce noyau et est-ce qu'il y a comme une transition très franche ?
Alors là, on pense que la transition est assez franche parce qu'il y a une énorme différence de densité entre le manteau et le noyau. Typiquement, le manteau à cette profondeur-là, il a une densité peut-être de 4,55 et le noyau, lui, c'est plutôt 12. Donc ça veut dire que s'il y a une transition qui n'est pas nette, des petits bouts de manteau ou des petits bouts de noyau, il y a une telle différence de densité qu'ils ne peuvent pas être stables. Donc ils vont s'arranger. Donc en fait, la frontière doit être assez nette.
Dis-moi quelques mots sur cette manière un peu magique de radiographier en quelque sorte la Terre avec des ondes sismiques. Comment ça marche ?
Alors, quand il y a un tremblement de Terre, on propage des ondes à travers toute la Terre. Ça envoie des ondes dans toutes les directions. Hein. Quand je te parle, en fait, même les gens qui sont derrière moi vont finir par entendre. Et donc, les sons et les vibrations se propagent dans toutes les directions. Si je me mets à un endroit qui est très éloigné du tremblement de Terre, j'ai un trajet d'une onde sismique qui va aller très profond dans la Terre et qui va me rejoindre. Si je suis tout près, j'ai un trajet qui va échantillonner les petites parties superficielles de la Terre.
Et typiquement, ça met combien de temps pour traverser ? C'est la Terre.
Alors une onde sismique, alors ça dépend, il y a plusieurs types d'ondes, mais une onde ça va à 7 km par seconde.
Ah.
Et donc si pour traverser la Terre qui fait avec un diamètre de 12 000 km, il faut faire le calcul, j'ai pas fait le calcul, mais 12 000 divisé par 7, donc ça fait...
Un certain temps.
Voilà, un certain temps, voilà. Bon, ça c'est une heure ou deux, enfin quelque chose comme ça.
Alors donc de l'autre côté de la Terre...
On mesure l'arrivée des ondes. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que parfois je ne sais pas exactement d'où vient le tremblement de Terre, et à quelle heure il s'est déclenché, mais ça il y a des méthodes pour le déterminer. Supposons que je sais d'où vient le tremblement de Terre, eh bien je sais le temps de trajet de l'onde, je connais la distance, puisque je connais le temps de trajet, ben je connais la vitesse. Et la vitesse, en fait, c'est une propriété physique qui est directement liée à la composition. Et donc, en mesurant cette vitesse, j'ai une idée de la composition des roches. Alors évidemment, comme la Terre n'est pas homogène, il faut que je fasse attention au fait qu'elle a traversé des roches différentes, il faut que je tienne compte de ça, mais c'est comme ça que je vais déterminer.
Et j'imagine qu'elle suit des courbes, des trajectoires brisées, ou avec un peu comme de la réfraction, quoi.
Elles sont courbées parce que comme les roches deviennent de plus en plus denses en profondeur, leur vitesse augmente avec la profondeur. Donc ça fait courber, et ça c'est à notre avantage d'une certaine manière, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les raies sismiques, c'est comme un ray de lumière, les raies sismiques sont courbées vers le haut et donc ils vont revenir à la surface.
Alors là, on tombe dans des vraies questions mathématiques, c'est-à-dire qu'on mesure la réception et à partir de ça, on doit en déduire la composition, la trajectoire.
C'est ça, voilà. Mais il y a une deuxième invention, c'est que si j'ai une interface, à ce moment-là, j'ai des réflexions et de la réfraction. Donc une interface, ça fait comme un miroir, si l'on veut. Il y a une partie de l'énergie sismique qui est envoyée dans l'autre sens. Et donc ça, je peux le détecter. Donc quand il y a des interfaces, je les vois.
C'est un rebond, quoi.
C'est un rebond, voilà. Quand je vais avoir un signal, je vais avoir des rebonds. Ça va se voir par des arrivées de temps différents. Parce que le rebond qui vient de quelque chose qui est peu profond, il m'arrive rapidement. Donc je vois dans mon arrivée, j'ai une série de rebonds. Toc, toc, toc. Et puis, donc je vais pouvoir détecter toutes les interfaces qui ont été traversées par les ondes et qui ont été réfléchies par les ondes. Donc ça, c'est une première information.
Et le sismographe, c'est juste un truc...
Le sismographe, c'est simplement l'enregistrement du déplacement du sol, tout simplement. Donc je pose mon appareil sur le sol, et il vibre, et j'enregistre les déplacements. C'est aussi bête que ça.
Et aujourd'hui, autour de la Terre, il y en a combien ?
Alors ça dépend, parce qu'il y a plusieurs réseaux, et il faut savoir qu'on enregistre les ondes, et comme c'est un contenu fréquentiel extrêmement varié, si c'est comme l'oreille humaine n'est sensible qu'à une certaine gamme de fréquences, et donc chaque sismomètre d'un certain type a une gamme de fréquences. Et donc j'ai différents types de sismomètres, et c'est important parce que selon la fréquence, j'ai la même capacité d'échantillonnage. Un son qui est très aigu, en fait, il n'échantillonne pas très bien les grandes dimensions, et il n'échantillonne pas du tout les petites dimensions. Donc un son qui est beaucoup plus grave, il va être beaucoup plus sensible aux grandes unités. Donc je vais faire des appareils différents avec différentes gammes de fréquences. Ça va me permettre d'échantillonner différents types d'ondes qui ont une sensibilité aux interfaces et à l'hétérogénéité différente.
Ça fait combien de temps qu'on fait ça ? Parce qu'il y a besoin d'abord d'un bagage théorique, mathématique, qui n'est probablement pas obtenu au 19e siècle, non ?
Il y avait des enregistrements sismiques extrêmement rudimentaires qui ont été faits, en particulier en Chine, parce que les Chinois qui étaient proches du Japon avaient beaucoup de tremblements de terre. Donc ils enregistraient en particulier la direction d'où venait le séisme. Donc déjà, ça donnait des idées d'où venaient les séismes, mais la mesure des vibrations, c'est fin 19e siècle. Après, ça s'est multiplié, et donc les réseaux sismiques mondiaux, en fait, ça date des années 20, en fait, 1920.
Et aujourd'hui, on sait tout.
Ah non, pas du tout, parce que...
J'étais sûr que tu allais dire ça.
Ben, qu'est-ce qu'on sait ? Ben, à chaque fois, en fait, on a une image qui a une certaine précision. C'est pareil que pour la matière. Alors, c'est intéressant de voir que le noyau de la Terre, on l'a découvert vers les années 20, au moment où on commençait à voir les anneaux des atomes. Donc, on peut faire un parallèle entre la découverte de la structure de l'atome et la découverte des structures de la Terre. Ça se fait à peu près simultanément. Et c'est pareil, une fois qu'on a compris l'atome, on a vu qu'il y avait un noyau, puis il y avait des électrons autour, et puis, en fait, le noyau, bah, il n'est pas homogène, il y a des neutrons, il y a des protons, etc. Donc en fait, plus on avance, et puis les protons et les neutrons, ce n'est pas suffisant, il y a des particules différentes avec des charmes, etc. Donc en fait, plus on avance dans le temps, plus on va avoir des renseignements de petite échelle. Et c'est pareil pour la Terre.
Parle-moi du noyau, mais quel est son diamètre ?
Alors le noyau, alors là, c'est de l'ordre de 3400 km à peu près.
Le diamètre ?
Le rayon.
Oui. Ah, donc il fait le rayon de la Terre, c'est 6200 ?
6400, oui.
6400, d'accord.
Ah oui, non,
donc
c'est
en gros la moitié, quand même.
C'est un gros de la moitié, oui. Mais par contre, c'est comme c'est le rayon interne, c'est pas la plus grosse masse de la Terre, puisque le manteau, lui, est fait à peu près aussi 3000 km d'épaisseur, mais sur la pellicule externe, c'est là que la plus grande masse de la Terre, c'est dans le manteau.
Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est du liquide ?
Bah, c'est du liquide, alors.
Il faut pas penser que c'est comme mon verre d'eau.
Alors, il y a une partie du noyau qui est solide. Ça, c'est très tardif, c'est dans les années 1930 et des poussières qu'on a découvert que le noyau, en fait, était composé d'une partie liquide et d'une partie solide. Comment est-ce qu'on sait que c'est liquide ? Le liquide, c'est contrairement au solide, c'est là où les atomes ou les molécules, en fait, sont libres de se déplacer les unes par rapport aux autres. Pas autant qu'un gaz, mais il y a une corrélation à petite échelle, mais pas à grande échelle. Ça veut dire que ça ne supporte pas un certain nombre d'ondes qui ne peuvent pas passer au travers. Ce qu'on appelle les ondes S, c'est-à-dire des ondes de cisaillement. Quand je parle dans l'atmosphère, j'excite des ondes de pression. Ça se propage partout, dans les solides, dans les liquides. Par contre, ça ne propage pas les ondes de cisaillement. Un cisaillement, c'est quand je vais faire un frottement de mes mains, en fait, je ne peux pas cisailler les liquides à très grande distance. Donc ça veut dire que les ondes de cisaillement ne se propagent pas dans un liquide. Et c'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait une partie liquide de noyau, c'est-à-dire qu'il y a des ondes de cisaillement qui se propageaient très bien dans le manteau. Et puis quand elles atteignaient une partie de la Terre qu'on n'avait pas encore repérée, elles arrêtaient de se propager, il n'y avait plus rien. Donc il y avait des trous dans les enregistrements, et ça c'est une scientifique suédoise qui s'appelait Inge Lehmann qui a trouvé ça, et donc elle a vu qu'il y avait une partie de la Terre qui devait être liquide, puisqu'elle ne permettait pas la propagation de ces ondes particulières.
Et cette partie liquide du noyau, c'est la partie vraiment centrale ?
Ah non, la partie liquide, elle est à l'extérieur, parce que ce qui se passe, c'est qu'on est dans une Terre qui refroidit. Bah, elle perd sa chaleur à l'extérieur. Et puis évidemment, il y a un champ de pression énorme, donc compte tenu de sa température, c'est par le cœur de la Terre qu'elle commence à se solidifier. Et donc petit à petit, au fur et à mesure que la Terre vieillit, ben son noyau solide, qui est le noyau le plus profond, grandit. Donc ce qu'on est en train de voir à l'heure actuelle, c'est un noyau qui est à peu près à moitié liquide, à moitié solide, mais il faut voir qu'au début de la Terre, le noyau était entièrement liquide.
Et la limite entre le liquide et le solide, là aussi, bien déterminée?
Alors non, parce que là c'est plus compliqué. Donc c'est l'objet de grosses recherches à l'heure actuelle, parce que la cristallisation d'un liquide, puisque le noyau solide, c'est le liquide qui se refroidit et qui cristallise. En fait, ça peut se produire de plusieurs manières, et quand c'est déterminé par des phénomènes de cinétique de cristallisation, on ne forme pas de beaux cristaux, et donc il y a une partie qui doit être faite de cristaux assez compliqués qu'on appelle des dendrites. Et donc il y a une partie externe du noyau solide qui est probablement faite de ce type de cristaux, qui ne se mélange pas bien, et qui donc qui laisse un peu de place à du liquide. Et donc il y a une partie entre le noyau solide et le noyau liquide qui est à moitié solide, à moitié liquide, et faite de ces cristaux de forme étrange.
Les dendrites, ça me fait penser aux flocons de neige.
Exactement.
Je résume, si j'ai bien compris, il y a un noyau central qui, lui, est solide. Autour de ça, toujours dans le noyau, une partie liquide. Et puis après, on arrive au manteau, qui, lui, est solide. Et après, on arrive à la croûte. La croûte étant plus dense.
Elle est moins dense que le reste. Elle est moins dense, puisque la densité, en fait, elle permet la stratification. Si je mets quelque chose de peu dense en profondeur, ça va le faire remonter à la surface. Tout dans la Terre, tous les phénomènes géologiques sont propulsés par la force d'Archimède. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une différence de densité, même si c'est des différences de densité extrêmement faibles, compte tenu que ça implique des énormes volumes, ça fait des forces gigantesques. Donc la dérive des continents, les éruptions volcaniques, tout ce que vous voyez comme phénomène géologique, la surrection des chaînes de montagnes, c'est propulsé par des forces d'Archimède.
Ce qui m'impressionne dans tout ce que tu racontes là, c'est que ta vision de la Terre, c'est pas du tout comme celle que je peux avoir d'une Terre statique. Ça bouge partout, quoi. Et est-ce que ça bouge rapidement? Tous les phénomènes dont tu parles, de choses qui remontent, qui redescendent, etc., ça met combien de temps?
Alors ça dépend, mais il y a des phénomènes très rapides. Une éruption volcanique, ça peut être extrêmement rapide. Donc la Terre est capable de bouger. Alors, quand il y a une éruption volcanique, on vidange un réservoir, et ça se vidange en quelques heures. Donc on expulse des kilomètres cubes de roche en quelques heures. Donc la vitesse à laquelle ça s'expulse, ça va très vite, hein, c'est des centaines de mètres par seconde. Donc ça c'est des phénomènes extrêmement rapides. En revanche, si je veux déformer des roches qui sont solides, les éruptions volcaniques, ça va vite puisque c'est des liquides ou des gaz. Donc les roches solides, c'est plus difficile à déformer. J'ai grosso modo le même type de force qui sont là, puisque c'est les forces d'Archimède. Ça change un peu, mais c'est grosso modo le même type de force. Par contre, la vitesse de déformation va être liée à leur capacité de se déformer. Un liquide, ça va vite. Un solide, ça va beaucoup plus lentement. Donc les phénomènes géologiques comme la déformation dans les chaînes de montagnes, c'est beaucoup plus lent. Une chaîne de montagne, ça met des dizaines de millions d'années à se faire, par exemple. Donc on raccourcit, par exemple, l'Himalaya, qui est une belle chaîne de montagne. Hein. Ça s'est fait à peu près en 50 millions d'années. Donc on peut mesurer, ça s'est raccourci d'à peu près 200-300 km. Donc on fait un raccourcissement de 300 km en 50 millions d'années.
Et ça, c'est dans la croûte?
Alors ça, c'est la croûte qui a été... Mais la croûte, elle est entraînée par ce qu'il y a en dessous. La croûte elle-même n'a pas beaucoup de capacité motrice, puisque c'est une petite surface, un petit volume, donc un petit réservoir de force. Les forces, elles sont dans le manteau. Et le manteau, lui, il est gros. Et donc, c'est des différences de température dans le manteau qui font des forces d'Archimède énormes, et c'est ça qui propulse le tout.
Donc on parle souvent de convection dans le manteau, et c'est donc il y a comme des cellules de convection, un peu comme dans une casserole d'eau que je fais bouillir.
Tout est lié au fait au refroidissement de la Terre. Si la Terre ne se refroidissait pas, si elle était parfaitement dans un milieu dans lequel elle ne pouvait pas perdre de chaleur, puisqu'elle ne perd pas de chaleur, elle ne peut pas faire de différence de température. Puisqu'elle ne peut pas faire de différence de température, elle ne peut pas faire de différence de densité. La densité dépendant de la température, il faut des différences de température pour faire des différences de densité. Donc si je veux des mouvements, il me faut des différences de densité, donc il me faut des différences de température. Et ça, c'est à cause du refroidissement que ça se fait.
Donc la Terre se refroidit depuis sa création, quoi.
Ah oui, depuis sa création, oui. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué. Refroidir, c'est-à-dire qu'elle perd de l'énergie, mais ça ne veut pas dire pour ça que sa température baisse. Pourquoi ? Parce que dans la Terre, il y a des éléments radioactifs. Donc les éléments radioactifs, comme l'uranium, le thorium et le potassium, c'est les éléments les plus importants pour nous, puisqu'ils libèrent beaucoup de chaleur en se désintégrant. Eh bien, eux, ils vont chauffer la Terre. Donc il y a un équilibre délicat entre ce que la Terre est capable de perdre, puisqu'elle va échanger de la chaleur avec l'hydrosphère au-dessus, et puis de la chaleur qu'elle produit elle-même en son sein. Et donc il y a une phase initiale de la Terre dans laquelle la radioactivité est suffisamment forte pour que la Terre chauffe un peu, en fait. Donc il y a un maximum de température dans la Terre qui atteint à peu près à 3 milliards d'années à peu près. Et depuis, ça se refroidit. Pourquoi ? Parce que les éléments radioactifs, ils se désintègrent. Donc à partir du stock initial que j'avais, j'en ai de moins en moins au fur et à mesure que le temps s'agrandit. Et donc la chaleur libérée par la radioactivité baisse de plus en plus. Donc au début, c'était tout à fait dominant. Et maintenant, la radioactivité ne représente que la moitié de la chaleur de la Terre. Donc on voit qu'il y a une première phase dans laquelle c'est la radioactivité qui gagne. Et depuis 3 milliards d'années, c'est la perte de chaleur à l'extérieur qui gagne. Et c'est pour ça que la Terre perd de l'énergie et qu'elle se refroidit. Alors qu'avant, elle perdait de l'énergie, mais pas suffisamment pour compenser l'énergie qui était fournie par la radioactivité.
Comment tous ces éléments radioactifs, qui sont des éléments lourds, comment ils se sont retrouvés dans la Terre au moment de la création initiale, de la formation initiale de la Terre? Parce qu'on peut penser quand même que la Terre est formée par des atomes pas trop lourds au début.
Parce qu'en fait, tu en mets très peu. Alors la question ouverte, et ça, on le sait que pour, effectivement, pour qu'ils soient présents, il faut qu'ils ne peuvent pas être trop abondants, c'est clair. La manière dont ça s'est fait, ça reste l'objet de discussions très animées à l'heure actuelle. Par exemple, on ne sait pas s'il y a des éléments radioactifs dans le noyau. Il devrait y en avoir, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait zéro. Rien n'est jamais zéro en sens de la nature. On ne sait pas trop, mais c'est clair que les éléments radioactifs sont concentrés dans la croûte terrestre. Oui, alors comment ça se fait? Parce que la croûte terrestre, elle est créée par la fusion du manteau. Au début, il faut imaginer que la Terre, elle était faite d'abord quelque chose d'assez homogène. Le noyau s'est ensuite formé, tout simplement parce que tout ce qui était en fer est descendu, puisque c'est très dense et donc ça s'est rassemblé au centre de la Terre. Et donc il restait une gangue riche en silice, qui elle était moins dense, c'est pour ça qu'elle pouvait rester à la surface. Et ensuite, à partir de cette gangue de silice, je me suis mis à la fondre. Et quand je fonds, ça ne se fait jamais de manière totale. Et donc c'est une fusion dite partielle, dans laquelle le liquide qui se forme n'a pas la même composition que le solide d'où il vient. Donc ce liquide, qu'est-ce qu'il fait? Mais il va prendre tous les éléments qui ne sont pas bien dans le solide. Et les éléments radioactifs, comme tu le dis, sont des gros éléments, ils ne sont pas bien dans le solide. Donc ils vont aller se partager préférentiellement dans le liquide. C'est pour ça qu'ils vont s'enrichir dans les liquides. Ces liquides montent à la surface, ils vont former la croûte terrestre, et c'est comme ça que la croûte terrestre est enrichie en radioactivité.
Merci beaucoup, Claude, pour ce deuxième épisode. Ça va faire un troisième, alors. Continuons. Vous avez entendu « A Journey to the Center of the Earth » par Herman et le National Philharmonic Orchestra.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.